Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour.
Oui.
Vous votez pour qui?
Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même.
Ouais.
Donc,
c'est impossible.
Disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Intelligence artificielle et droit d'auteur, les riches en danger. Après Bernard Arnault, en passe de passer sous le seuil de pauvreté, voilà que les artistes poussent un coup de gueule. Ils ne sont pas opposés à l'IA. Les 34 996 signataires de la pétition veulent protéger leurs droits, je cite. Notre démarche ne s'inscrit pas dans une opposition inévitablement stérile entre les acteurs de l'intelligence artificielle et ceux de la culture, mais dans l'exigence d'un débat respectueux des intérêts et des droits de tous, déclare-t-il en chœur. Si l'inquiétude est légitime pour Aldebert, Dominique A, Barbara, Carlotti, Miossec ou Massestiria, que penser de celle d'Alain Chamfort, Étienne Dao, Jacques Dutronc, Jean-Jacques Goldman, Raphaël, Jean-Michel Jarre, Michel Jonas, Bernard Lavilliers, Bob Sinclair, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Véronique Sanson, Éric Serra, Hubert Félix Thiéfaine, Laurent Voulzy ou Patti Smith. L'intelligence artificielle fait peur à ceux qui vivent des droits d'auteur. Qu'en est-il pour Frédéric Bobin, Raymond Gary, Rimé, Trompettes of Consciousness, Lou Nail, Leila Huissou ou Zato? Les droits d'auteur, nous artistes Radio B en voient-ils la couleur? Comme d'habitude, ce sont les gros qui en profitent et ne redistribuent rien aux derniers de cordée. Alors évidemment, ils sont inquiets. Comment feront-ils s'ils ne sont plus matraqués à la radio et à la télévision? Disparaîtront-ils un jour du paysage musical français? C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Au terminus des prétentieux, 1145e injustice ce soir, se demande bien ce qu'ils entendent par les droits de tous. L'artiste de la semaine touche-t-il des droits d'auteur? Sur le 90.0 de Radio B, pas sûr que la SACEM récompense les acteurs. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à, on l'espère, à peu près 18h15 pour une émission Penardos Culos. Patrick Fonte rajouterait, s'il était encore vivant, le genre Lino Ventura. Eh bien, ça tombe bien, il est un des derniers tontons flingueurs de l'émission. Alors lui aussi, il avait cette tranquillité des jockeys lorsqu'il remportait une course avec une facilité déconcertante, les doigts dans le nez qu'il disait. En anglais, on aurait tendance à tort à dire finger in the nose, mais c'est un faux anglicisme. Du côté de Lyon et depuis 1989, il est question de Digitipus Innazu, une traduction que seuls les créateurs du groupe de rock pourraient nous donner. En langage musical, cela donne un rock intense et enchanteur, une aventure urgente et nécessaire dans la langue de Bachung ou de Maupassant. Un rock aux influences punk, funk, indie, où le rêve et la mélancolie peuple des mélodies résolument modernes, relatant les aventures surréalistes de personnages impossibles, questionnant notre condition, démoralisant l'évidence. Alors avant de leur demander de plus amples renseignements, il est l'heure d'accueillir dans les studios de Radio B Florian Testu, guitariste, et Laurent Fructus, bassiste du combo lyonnais Digitipus Innazu. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Michel.
Alors vous aussi, depuis le temps, vous jouez les doigts dans le nez?
Alors non, on n'a jamais joué les doigts dans le nez. on a créé ce groupe il y a quelques années. On reviendra sur l'historique. Et les doigts dans le nez, en fait, c'est la manière d'expliquer que la musique, ça doit être un plaisir, quelque chose de simple, il ne faut pas se prendre la tête. C'est pour ça qu'on a, quand on cherchait un nom de groupe, avant même d'avoir acheté un instrument, on a commencé par un nom de groupe et ensuite on a acheté les instruments. Bien. C'est le nom de Digitipus Innazu qui est apparu.
Bien. Et quand on est chanteur, on parle près du micro. On chante près du micro.
Effectivement. Donc je me rapproche du micro.
Voilà, voilà. pour les deux. Oui, parce que ça, les chanteurs, ça bouffe un micro. Hein.
Et les guitaristes aussi.
Eh ouais, c'est ça. Et Il a jamais vu son chanteur chanter. Hein, t'as jamais vu son
chanteur. Mais je chante aussi. Hein.
Ah bah alors.
Ah bah oui, mais attends.
Ah ouais. Tu pourras monter le micro après. Hein. Pas tout de suite, ça fait du bruit. On va attendre un petit peu. Bien. Allez, nous aurons une pensée pour Xavier Perret, chanteur. Hein, et Bertrand Chavanel, batteur. Voilà, qui n'ont pu se joindre à nous ce soir. Sans oublier Stéphane, sans qui vous ne seriez pas là ce soir.
Oui, effectivement. Merci voilà. Trifon, tu te reconnaîtras.
Voilà. J'espère juste qu'il nous écoute parce qu'il a un métier. Voilà, à cette heure-là. Mais je suis sûr qu'il va nous écouter au moins en podcast. Hein, ouais, il l'a noté en tout cas. Alors, vous nous raconterez l'histoire de DJT Pouce et Nazou depuis ses débuts en 1989 et vous nous présenterez votre dernier album en date Sourat Safran, sorti le 13 novembre 2024. Sans oublier le précédent, Malibu, Sheba, Wasabi Bleu, sorti en 2020. Alors, point de Tonio ce soir, mon co-animateur, pourtant fan de Requin D, n'est pas là ce soir. Il aurait tant aimé vous parler de Mademoiselle B et de Franz Ferdinand. Alors, ce n'est que partie remise, hein. On le retrouvera la semaine prochaine. Sur ce, il est l'heure de retrouver l'un des groupes phares du genre préféré de mon co-animateur. Hein. En français, ça donne Les Lutins. Avouez que ça ne fait pas très groupe de rock. Et pourtant...
Stop.
Rock Rock Indé. Alors, que nous dit, que nous en dit Wikipédia, dont Dixit Le Point, hein, des militants tentent désormais d'y imposer leur contre-vérité en multipliant les cibles traduisées par faire son boulot. Alors, le rock indépendant, souvent abrégé en rock indé ou indie rock, est une classification musicale apparue à la fin des années 70 au Royaume-Uni comme résultat du bouleversement occasionné par l'émergence du mouvement punk. Le terme s'est rapidement diffusé dans le monde entier pour désigner le rock distribué indépendamment des majors du disque et qui reste opposé au courant dominant du rock. La classification n'est donc pas purement musicale mais désigne à l'origine des disques et non des groupes hein, publiés par de petits labels. Nombre de groupes sont ainsi qualifiés étymologiquement à tort de rock indé alors qu'ils publient leurs albums chez des majors. Non, ah, le mot rock indé, on l'a vu aussi sur des groupes qui ont signé sur des grandes majors. Ouais.
Bah, Pixies, par exemple.
Oui, ouais, ouais,
comme bon. L'exemple. Oui.
Voilà, voilà. Voilà.
On est d'accord.
Ouais, ouais. Alors, par extension, cependant, la catégorie indé est actuellement davantage utilisée pour qualifier un courant relativement étendu, une esthétique de la musique rock, qu'en fonction du statut contractuel des groupes. Alors, une constante des groupes de rock indé est leur allégeance envers les valeurs de l'underground, de la contre-culture et la recherche d'un rock authentique éloigné des standards commerciaux. Oui ?
Oui, ça c'est pas mal ça.
Oui, c'est pas mal. Ouais, ouais. Alors, une Pixies est-il un groupe de rock indé ? Alors, hein ? Oui,
oui.
Oui. Alors, formé en 1986, elle est constituée de 4 membres. Alors, tu les connais peut-être mieux que moi.
Non, mais c'est parmi les inspirations qu'on a pu avoir au début de l'histoire de Digitipus. Effectivement, les Pixies, quand ils ont sorti leurs premiers albums, ont été pour nous une référence, mais comme d'autres finalement. Mais eux, ils avaient cette qualité de pouvoir à la fois marier ce côté simple de la mélodie et avec des valeurs d'indépendance, mais qu'on retrouve surtout au travers d'une musicalité qui sert un propos, quoi. C'est ça qui nous intéressait. Mais sans pour autant qu'on soit dans du rock déclaratif, politique, comme la génération d'avant avec le punk.
Ouais. Alors, les 4 membres, Charles Thompson, Four, alias...
Ah, je n'ai pas tous les noms
Frank
en tête.
Black.
Frank Black, bien sûr.
Ah bah,
oui.
Voilà. Joey Santiago. Ben oui. Kim Deal et David Lovering. Alors, 4AD, un label indépendant britannique, qui a dans son catalogue des groupes comme Boathouse, les Cocteau Twins, Dead Can Dance ou les Throwing Muses. Eh bien, signe Pixies un an plus tard. Hein, c'est le début de l'histoire d'un des plus grands groupes de rock indé des années 80 et 90. Alors, le 21 mars 1988 sort Surfer Rosa, hein, la deuxième galette du combo américain, avec aux manettes un certain Steve Albini, hein, que l'on retrouvera, qui travaillera avec les plus grands, hein, dont Nirvana, Pete Gervais, The X, les Stooges, mais aussi avec Dionysos, hein, Shannon Wright, les Thugs, les Who Common Men From Mars, les Mogwai ou Godspeed You Black Emperor. Voilà. Ouais. Steve Albini, donc un des personnages du rock indé, disparu le 7 mai 2024. On nous l'avait déjà rendu hommage. Alors, Surfer Rosa, un album, d'où est extrait donc, le morceau de ce soir, vous l'avez ? Tu l'as le titre ?
Where is my mind ?
Voilà, le morceau culte de ce soir, hein, devenu depuis un classique, hein, un standard du rock, ouais, depuis son apparition dans la scène finale du film Fight Club, paru en 1999. Enfin bon, même si les...
D'ailleurs, on parle de standard du rock et pas de standard indie rock.
Exactement. Ouais, ouais, ouais. Alors, même s'il fut souvent cité parmi les meilleurs albums de l'année 1988, hein, Surfer Rosa fut un échec commercial à sa sortie quand même. Aujourd'hui, bah, de nombreuses revues ayant ignoré, hein, ou mésestimé le disque à sa sortie ont révisé leur jugement, justement, le considérant désormais comme un album essentiel du rock indépendant des années 80. Et Surfer Rosa apparaît désormais sur de nombreuses listes de meilleurs disques de tous les temps. Donc Surfer Rosa et la production de Steve Albini ont eu une influence énorme sur le rock indépendant et sur le grunge en particulier, parce que ça s'entend là. Hein. Pourtant, c'était en 84, hein, c'était en 88. Surfer Rosa. Donc après, Kurt Cobain a cité Surfer Rosa comme une inspiration fondamentale pour l'écriture de l'album Nevermind. Ça s'entend, je trouve. Des membres après une dissolution en 1993, les Pixies renaissent de ses cendres en 2004. Des membres originels, seul Kim Deal n'est plus présente, hein, remplacée en 2024 par Emma Richardson. Alors, le dernier album des Pixies, The Night the Zombies Came, est sorti en 2024. Vous l'avez écouté, non ?
Oui, j'ai écouté. Oui.
Ouais, bien.
Différent.
Différent, oui. Mm. Ouais. Alors, contrairement à George Michael, Duran Duran, Janet Jackson, ABBA ou Whitney Houston, et oui, peut-être des gros mots, Mix Pixies n'a pas encore été intronisé au fameux Rock and Roll Hall of Fame. Hein. Bon, alors, est-ce là un vrai groupe de rock indé, finalement ?
Voilà, là, pour le coup, pour ils le sont coup, repérés coup, groupe indé.
Effectivement. Donc, si la définition du genre est rock distribué indépendamment des majors du disque et qui reste opposé au courant dominant du rock, bah, la réponse est oui. Voilà. Florent, j'ai pas dit Florian, Florent, Laurent, Pixies, alors c'est une de vos influences.
Alors, Laurent parlera de ses influences. Alors, Laurent a rejoint le groupe un peu plus récemment.
Ouais. Hein,
alors, je ne sais pas si tu veux que je fasse un peu un historique pour les auditeurs, mais...
Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite, d'accord.
Attends un peu. Attends.
Donc, Pixies, c'est une des influences, mais pas la seule.
Ouais.
Hein. Le Velvet Underground en faisait partie également. Et puis, il y avait des groupes comme Police aussi. C'est ce qu'on écoutait aussi. Et puis, bien sûr, des groupes comme les Clash. Voilà. Et puis, on avait aussi... toute une comment dire, des groupes qui sont arrivés un petit peu après, des groupes comme Red Hot Chili Peppers, voilà. On a eu aussi on a bien aimé à un moment donné ce que faisait Prince, qui avait un côté complètement à la fois très, allez, on va dire très variété, puis d'un autre côté sur certains morceaux il était complètement décalé avec des trucs qui partaient dans tous les sens. Donc on aimait bien un peu ce mélange, c'est ce qui, et ensuite on a aussi beaucoup écouté des groupes comme Living Color, par exemple. Voilà, pour ce côté funk mélangé. Et puis après, personnellement, voilà, j'ai été beaucoup influencé par des guitaristes comme Jimi Hendrix, par exemple, Jimmy Page, tous ces gars-là qui avaient apporté un truc un peu chaleureux dans le rock.
Ouais. Laurent, bon, t'es moins Pixies, toi, alors?
Carrément, ouais. Moi, c'est, j'ai plutôt une culture métal. Bon, après...
Bon, métal 80, alors?
Oui, plutôt les années 80, oui.
Bon, ça va, il y avait de quoi faire.
Oui, il y avait quand même de quoi faire. Ouais. Et puis bon, en jouant de la musique, ça m'a un petit peu ouvert les horizons.
Ouais.
Donc après, je me suis intéressé au rock d'une manière générale, un peu le jazz, jazz rock, Marcus Miller, ce genre de personnes. Et puis bon, je dirais des groupes ou des musiciens qui étaient des vrais musiciens un peu techniques, où il y avait... ça pouvait être un peu compliqué à écouter, mais bon, on arrivait quand même à se faire plaisir en se disant, on se disait, bon, les gars, ils ont un peu réfléchi sur ce qu'ils font.
Mmh. Alors, le rock, bon, ça vous parle, hein. Indé comme indépendance, elle a quelle signification pour vous, indépendant de qui, de quoi?
Moi, ma vision de ce sujet-là, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de sortir des habitudes. La notion d'indépendance, moi, je la prends au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que ne pas chercher à être dans un modèle. Alors, ça paraît toujours un peu se confronter avec l'idée on a des influences, mais justement, ces influences, elles nous servent aussi à se dire ça, c'est fait, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce qui pourrait être différent, en fait. Et donc, cette notion d'indépendance, c'est ça. C'est la première chose. Et la deuxième des choses, c'est pas hésiter, notamment au travers des textes, et on en parlera, je pense, lors de l'émission, de sortir... en fait, de modalité d'écriture et de proposer autre chose. C'est ça aussi l'indépendance.
Laurent ?
Il a tout dit.
Il a tout dit ? Bon.
Il a tout dit.
Bon. Allez bien. Allez, il est l'heure d'enlever les doigts du... Il est l'heure de l'enlever dans le vide. Il est l'heure d'enlever les doigts du nez et de repartir en 2025. Même si on sera un peu prétentieux, on n'est pas loin d'être au terminus. Il est 17h passé de 33 minutes sur les 90.0 de Radio B. Ou alors, comme le dirait si bien Tonio, 9h passé de quelques minutes si vous écoutez la rediffusion du vendredi à 9h ou bien celle du samedi à 14h. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Testu et Laurent Fructus, deux des membres du combo lyonnais JT Pousse in Nazou. Vous êtes venus nous présenter votre univers et votre dernier album Sourate. Oui, Sourate Safran, sorti le 13 novembre 2024. Alors, JT Pousse in Nazou, c'est une très longue histoire débutée en 1989,
Pas si loin d'ici, finalement, puisque ça a démarré au lycée de la Plaine de l'Ain, en Berrieux, en Bugey.
Oui, d'accord.
C'est là-bas que, avec Xavier, donc, le chanteur, qui n'est pas présent aujourd'hui, qu'on a créé tous les deux le groupe.
Ah oui.
Voilà, comme je disais tout à l'heure, on a d'abord cherché un nom d'un groupe, et puis ensuite on s'est dit on va faire des instruments, et donc on va apprendre à jouer. Donc moi je me suis mis à la guitare, et puis lui il a dit je vais être chanteur. Voilà. Et donc on a monté l'affaire comme ça, on a commencé avec des machines, boîte à rythme, et puis ordinateur.
Ah ouais.
Voilà.
Et des vrais instruments aussi.
Ah oui, puis guitare.
Ah oui.
Et puis le chant, qui est un instrument vraiment à part entière dans la musique, composition de J.T. Pousse.
Vous avez fait comme Indochine finalement, ouais.
Probablement, mais bon, mais il n'y a pas eu que, il y a des gens qui continuent à faire la boîte à rythme.
Oui.
D'ailleurs, les productions d'aujourd'hui sont souvent faites à la boîte à rythme, ce qui est terrible.
Mais bref. Bon, vous étiez que deux.
Donc on a appris, et une fois qu'on a réussi à comprendre un peu comment ça marchait, faire un morceau, on a recruté des vrais musiciens, donc le bassiste, donc Arnaud Perret, qui est le frère du chanteur, qui était pianiste, lui, à la base, mais qui s'est mis à la basse, parce qu'on a besoin d'un bassiste. Et puis ensuite, on a recruté un batteur. Et donc, ça n'a pas pris longtemps, parce qu'on a créé le groupe en 89. Et en 91, on avait un groupe avec quatre musiciens, et on a commencé à faire des concerts dès cette année-là. Voilà.
Et deux ans plus tard, c'était déjà fini.
Et donc, on a joué 91, 92, 93, premier enregistrement en studio, tout ça.
Les années étudiantes, c'est pour
ça. Et puis voilà, c'est ça. Et puis après, on s'est séparés parce que notamment, Xavier, le chanteur, a quitté Lyon pour aller finir ses études du côté de Montpellier. Et donc, on a arrêté le groupe. Voilà.
Et, tout simplement.
Tout simplement, voilà. On ne se rappelle plus exactement dans quelles conditions, mais bien, on n'était pas fâchés, ça s'est arrêté, c'était comme ça, il fallait s'arrêter. Et puis, Bertrand, le batteur, et puis Arnaud, le bassiste, eux ont toujours continué à faire de la musique, alors que Xavier lui avait complètement arrêté. Et puis moi, j'ai joué pendant 3 ou 4 ans suite à l'aventure de J.T. Pousse dans une formation lyonnaise. Et ensuite, j'ai arrêté aussi. Et puis, en fait, le groupe s'est recréé en 2013. Donc, 93-2013, 20 ans.
Alors, pourquoi ? Bon, les envies, évidemment. Bon.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire est assez... c'est une belle histoire. Donc, à cette époque-là, moi, j'étais parti travailler en Chine. D'accord ? Quand je suis parti travailler en Chine, je me suis pas dit, tiens, je vais emmener mes instruments, tout ça, là-bas, mes amplis que j'avais gardés. Donc, j'ai laissé tout ça en France, dans un garde-meuble. Et malheureusement pour moi, ou heureusement pour le groupe, le garde-meuble a pris feu. Il y a eu un incendie. Et j'ai été informé, en 2012, je suis informé que le garde-meuble a brûlé. Et là, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce garde-meuble ? Je reprends la liste que j'avais gardée, et là, je vois, purée, les instruments de musique, les enregistrements, des photos de concerts, tout ça. Je dis, j'ai plus rien. J'ai tout perdu. Et donc, sur ce fait-là, j'explique ça à des potes avec qui j'étais en lien en France, et il y en a un qui me dit, moi, je suis toujours en lien avec le bassiste, avec l'ancien bassiste du groupe. Donc, peut-être que lui, il a encore des trucs et des machins. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, via des amis interposés, et Stéphane, notamment, Trifon, dont on a parlé tout à l'heure. On a refait des liens. Et l'été qui a suivi, on s'est rassemblés lors d'une cousinade, on peut appeler ça comme ça. Et on a décidé de remonter le groupe.
T'étais rentré en...
Alors, j'étais remonté pour les vacances.
Ah oui, seulement.
D'accord. Voilà. Et voilà. Et donc, après, quand je suis retourné à Shanghai, après l'été, la première chose que j'ai faite, je suis allé à Shanghai acheter des guitares et amplis pour pouvoir rejouer après le boulot chez moi, là-bas, dans ma baraque, et recréer des morceaux que j'ai envoyés à Xavier et qui a commencé à chanter dessus. Et puis, pour Noël, quelques mois après, en rentrant sur Lyon pour les vacances de Noël, on est allé en studio à quatre. On était dans un studio à Lyon, là, studio Polycarp, et puis on a dit, tiens, on va jouer les morceaux qu'on s'est envoyés par téléphone portable pendant 3 mois, 4 mois, entre Shanghai et Lyon et la Normandie. Là. Et puis, on a enregistré comme ça, sur le fil, 6 titres. Puis on a écouté ça, on a dit, putain, franchement, c'est quand même pas mal, hein. Et puis, donc, voilà, on a continué comme ça. Et après, moi, je suis rentré, mon contrat s'est terminé, je suis rentré en France. Et depuis 2014, en fait, l'aventure a continué. Et on a sorti, là, le 13 novembre, le quatrième album de J.T. Pousse. Voilà comment la recomposition, 20 ans après, s'est faite.
Donc la composition actuelle, parce que...
La composition actuelle.
On n'arrive pas à suivre.
Il y a eu pas mal de choses.
Oui.
En gros, il faut 89, 93, voilà. Et depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui.
Voilà.
Donc... Après, il y a eu quelques mouvements différents et variés sur les 10 années, mais voilà. Cellule initiale est toujours en place.
Voilà, donc Xavier est toujours chanteur.
Xavier est toujours chanteur.
Florent, toujours guitariste.
Voilà. Bertrand, toujours batteur.
Ouais.
Voilà. Et Laurent Fructus nous a rejoint il y a 2 ans, suite au départ d'Arnaud, qui avait d'autres projets et qui souhaitait mettre fin à cette période 2 de Digitipus. Voilà.
Voilà. Bon.
C'est simple. Hein.
Ouais. Bon. Donc, nous, on vous a découvert. Moi, je vous ai découvert, non pas grâce à. Enfin, si, grâce à Trifon. Ça,
Trifon.
Je vais l'appeler Trifon la prochaine fois. Ouais, ça va se faire rire. Voilà. Qui m'a parlé d'un groupe qu'il connaît, qui s'appelait DJT Poussine Nazou. Ouais. Et ça me disait quelque chose, effectivement. J'avais reçu votre avant-dernier album via MO.
MO Musique, le label, ouais.
Voilà, donc... je vous propose d'en découvrir un premier extrait, puis après on va plonger sur le dernier album.
Ça marche.
Hein, c'est l'avant-dernier album, qui porte un nom bien pratique.
À répéter pour les animateurs radio.
Exactement, donc c'est fait exprès, j'imagine. Donc, même si Malibu, Sheba, Wasabi Bleu, ça va. Hein, c'est pas, y a pire. Donc le morceau de ce soir, je vous propose Amsterdam Kidam. Les Digipout, alors on dit bien Digitipus, c'est Nazou, comment...
C'est comme tu arrives à le dire, en fait.
Il y a un mélange de latin, d'anglais, de quoi ?
C'est ça, c'est un truc, c'est une invention, c'est indépendant, en fait, c'est de l'indé. C'est d'un texte, c'est de la parole indé.
Bon, bah Digitipus, c'est Nazou. Mais il y a un petit peu d'anglais, quand même.
Ouais.
Un guide suprême, une expédition polaire, les esprits malins du menu fretin. Un nouvel épisode, le vieux dans la montagne, creusé des labyrinthes, la belle époque. Mon Dieu, j'ai tout essayé, l'alcool et les femmes, les matins pâles. Brûler des mécaniques. Ma frégate s'est fracassée, le fleuve s'amuse, je sens que le sable monte, continent, continuez. Dans son ventre, je me réincarne. Au loin, dans les astres, ils font si loin. Je traverse le désert. Je traverse le désert. Joindre Pluton, longer les hôpitaux, le chant des cantines, les compagnons de l'aube. Tu m'avais montré le chemin, trouver ce magicien, celui qui revient de loin dans les dunes. Lueur vagabonde, il y a du monde dans les ruines pour visiter le vide automatique. Rouler des mécaniques. Un tour de passe-passe, tout est programmé. On peut pas l'inverser, la combine, franchir le Styx. Dans ce ventre, je me réincarne. Au loin, dans les astres, le vent se voit. Je traverse le désert. Je traverse le désert. Je traverse le désert. Je parcours les enfers. Chaque jour
Amsterdam Kidam, les Digitipus Innazu, extrait de leur album de 2021, Malibu Sheba Wasabi Bleu. Un album sorti donc enregistré en 2020. Alors 2020, 2022, évidemment, c'est la période du Covid. Donc pour vous, comment ça s'est passé? Comment l'avez-vous vécu?
Je sais pas, on n'est pas au courant. C'est pas arrivé jusque chez nous. Non, bah, en fait, effectivement, donc il y a eu cet album qu'on avait travaillé en 2019-2020, qui est sorti en 2021. Et la période de Covid, on a travaillé sur un autre album.
Bah oui, pareil.
Ouais. Et on a travaillé sur un autre album qui n'est pas celui qu'on vous présente ce soir.
Mais non.
Parce qu'en fait, il y a un album mystère qui existe aujourd'hui, qui est enregistré, masterisé.
Oui, il y a un an.
Voilà, qui comporte une douzaine de titres et qu'on sortira peut-être à l'automne.
Ah ouais.
Ouais. Et donc il a été écrit pendant le Covid.
Pourquoi il est pas sorti?
Ben parce que on n'était pas hyper satisfait de ce qu'on avait fait. C'était bien, mais c'était pas comme on voulait. Et donc derrière ça,
il va changer de titre.
Non, il ne changera pas.
Il se rappellera toujours des personnages dans les jardins.
Ouais,
toujours. C'est
toujours. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais il ne changera pas de nom.
Ouais, ouais.
Simplement, on a pris le temps de retravailler cet album, de redonner un esprit qu'on n'avait pas réussi à comment matérialiser. Quand on crée des morceaux, on répète. Derrière, il y a toujours la surprise du studio. Et quand on a commencé à enregistrer en studio, il y avait trop de surprises, en fait, si je peux le dire comme ça.
Ah bon.
Voilà. Et donc, on a décidé de on l'a terminé un peu plus tard, mais on a démarré un nouvel album entre-temps, avec donc une nouvelle formation, avec un nouveau bassiste, avec Laurent, et avec un état d'esprit différent. Et c'est comme ça qu'est né Sourat Safran, dont on va parler, qui est un album bien différent de cet album que personne ne connaît encore et qui sortira probablement au deuxième semestre.
Et qui est nettement différent de l'album de Wasabi.
Exactement.
Ouais. Ouais. Donc un état d'esprit vraiment différent. Là c'était du direct, du brut, du live, sans concession,
Duquel on parle.
Ah, du dernier. Sourat Safran.
Alors Sourat Safran, oui. Quand on a commencé à répéter pour cet album-là, on s'est fixé un cadre, on s'est dit, bon, on veut des titres qui soient dans un esprit direct, dans un esprit plus punk rock, si on peut dire, titres plus courts, ouais, avec des arrangements uniquement qu'on puisse jouer sur scène. C'est-à-dire que nos précédents albums, on travaillait pas mal en post-production, en rajoutant des synthés, notamment, comme on a entendu dans le morceau qui a passé avant, Amsterdam Kudam. Et sur scène, on restituait pas la même chose. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que pour ce nouvel album, on veut un album qui soit à la fois à l'écoute, disque et sur scène, où le public entend la même chose. Et donc, du coup, on a cherché à travailler des arrangements qui soient des arrangements live, qu'on puisse les rejouer facilement.
Et même au niveau du chant.
Même au niveau du chant, au niveau du chœur, voilà. Et on a enregistré cet album vraiment en prise live, voilà, au studio Omni Records à Lyon.
Donc un album très guitare, encore plus guitare que d'habitude.
Alors, moi, je trouve qu'il n'y en a jamais assez, mais il y en a pas mal dans celui-là, oui.
Ouais.
Oui, c'est très, très direct, en fait, voilà. Et pas beaucoup de sons différents. Vraiment, il y a trois gammes de sons dans cet album que les auditeurs pourront découvrir à l'écoute et feront l'idée par eux-mêmes.
Ouais. Moi, je me suis trouvé un album très guitare, plein de riffs, et presque metal ou punk années 70-80. C'est la patte de Laurent, ça ?
Laurent, il n'y a que toi qui peux répondre.
Bah oui.
C'est la patte du groupe, hein. Je pense que ça s'est fait comme ça.
Oui, il a un son quand même... Moi, je trouvais que ça m'a fait penser au son des fin 70, début 80, quoi. Entre punk et hard rock, quoi. Enfin, entre punk et hard rock des années 80, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du hard rock, c'est pas du metal, quoi.
Voilà. Non, c'est très, très rythmé.
Il y a plein de riffs.
Ça rentre dedans.
Ouais, voilà, c'est direct.
Voilà,
ouais.
Et puis, il n'y a pas trop de chichi, pas trop d'effet sur les instruments. Donc, voilà, ça va à l'essentiel.
Ouais.
C'est du rock.
Mmh. Oui. Alors, c'est plus rock que d'habitude. Ouais.
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 Ouais. Ouais.
Alors c'était quoi, c'était pourquoi cette envie? Vous avez marre de
un petit peu comment dire, je pense
lâcher les chevaux.
Je pense que
réellement
on a ressorti un petit peu ce qui était l'essence du groupe quand, époque 1,
ah.
R1. hein, c'est-à-dire, on créait des morceaux qui étaient spontanés, avec un chant qui était spontané, et il n'y avait pas d'arrangement parce qu'on n'avait pas le matériel pour le faire, on n'avait pas la maturité pour le faire, et donc c'était très direct. Et c'est ce qui plaisait aux gens qui venaient nous voir en concert et qui nous écoutaient à cette époque. Et c'est un peu comme ça que c'est revenu cette idée-là. Et beaucoup aussi sur l'impulsion de Bertrand, notre batteur, qui souhaitait qu'on fasse quelque chose qui sonne direct, live. Voilà. Et ben, une fois qu'on a un petit peu le canevas, le cadre, ben derrière, on a travaillé pour ça. Et on a vraiment travaillé pour avoir des morceaux qui durent entre 2 minutes 15. Il y en a un, je crois, qui fait 3 minutes 50. Alors qu'avant, on était plutôt dans 3,50 à 4,50. C'était toujours un peu long, quoi. Voilà.
Un peu plus long.
Un peu plus long.
Pas un peu long, peu plus long.
Un peu plus long.
Oui. Voilà. Oui. Ouais. 10 chansons. Moi, j'ai trouvé 10 chansons, 10 influences. Non.
Il me semble pas. Enfin, c'est.
Non. À chaque fois, j'écoute une nouvelle chanson, elle me fait penser à un groupe. Je sais pas.
Bah, si c'est un bon groupe, ça va.
Oui. Bah, je pensais aux Vampas, par exemple.
Ouais.
Il y en a un, c'est les Vampas. Moi, j'ai trouvé...
D'accord.
Enfin, dans l'esprit, quoi.
Ouais,
voilà,
ouais,
voilà,
bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Donc, il y avait vraiment 10 chansons différentes. Mmh. Par contre, oui.
Mmh. Oui, ça... Bah,
peut-être pas 10. Je pense qu'on peut faire des groupes... On peut faire peut-être 3 groupes de... 3 groupes de... Enfin, 3 types de...
Alors, le groupe un peu plus punk.
Voilà. Oui, un peu punk.
Punk rock. Mmh.
Ouais. Un peu plus rock, un côté rock alternatif.
Ouais, il y a aussi un groupe un peu plus new wave.
Ouais, tout à fait. Oui, ça sent le.
Voilà.
Ça sentait quoi les Cures.
Ouais, il y avait un peu de ça quoi. Il y a un morceau qu'on écoutera peut-être Mademoiselle B qui.
Ouais, pourquoi pas.
Voilà, qui peut l'envoyer.
Ouais.
Et puis il y a un troisième groupe qui est. Plus sur les inspirations Rage Against the Machine par exemple. Là, on est plus année 2000. Mm-hmm. Voilà, on peut dire qu'il y a 3 groupes. Je suis assez d'accord avec ça.
Il y a 3 groupes.
D'accord. Ouais, 3 groupes.
Bon, tu parlais de Mademoiselle B.
Ouais.
Tu nous en parleras après.
Allez.
Même si c'est pas. C'est toi qui écris. Non, c'est Flo.
C'est Xavier qui écrit tous les textes.
Donc c'est lui qui pourra en parler.
Ouais, je pense que je peux en parler aussi bien que lui.
Ouais. Cette Mademoiselle B.
Mais là, c'est une private joke entre lui et moi.
Ah, bien. On pourrait comprendre.
Oui, on vous expliquera.
Bon, allez. Les Digitipus Inazu, Mademoiselle B.
Des alertes sur son téléphone portable, elle collectionne les contacts de ceux qui rêvent de ses caresses. Elle est plutôt pas mal, on lui parle avec tendresse, avec ses grands yeux pâles, elle embarque tous ses beaux mecs. Mademoiselle parcourt le monde, invitée par tous à la ronde. Sous son iPhone de dingue, c'est l'occasion de s'amuser, voguer peinard sans s'inquiéter. Mademoiselle a des adeptes et de grands yeux noisettes. Elle rencontre ce gars du côté de la porte des Lilas, France métropolitaine, il devint son beau capitaine. Puis ce fut le tour d'Edouard, de côté Rio de Janeiro, son gentil poète, un colo fort comme un Quasimodo. Mademoiselle a des airs de fête, elle sait dire des trucs un peu bêtes. Chacun elle frissonne, corps et âme passe à moitié.
Mademoiselle B, Digitipus in Nazu, extrait de leur nouvel album Suratsa France, sorti le 13 novembre 2024.
C'est ça.
C'est ça. Bon, alors, c'est qui cette Mademoiselle B dont parle Xavier?
Mademoiselle B, en fait, le texte, j'allais dire que quasiment chacun peut mettre derrière quelque chose, évidemment. Hein. On est quand même dans un texte qui est très dans l'air du temps, hein, puisqu'on va parler de téléphone portable, on va parler de connexion, etc. Ouais. Mais toujours avec le regard que Xavier peut avoir de décalé. C'est pour ça que souvent on dit qu'il raconte l'histoire de personnages qui sont des personnages entre personnage réel et personnage imaginaire, qui permet à chacun de dire ben moi je suis plutôt du côté de ce personnage avec cet aspect imaginaire, ou je suis plutôt, c'est réel, c'est bien ce qui m'arrive, et donc je prends la partie des paroles qui correspond en fait à ce que je vis, et puis d'autres vont dire ben moi c'est plutôt l'imaginaire qui me porte. Mais là on est face à un texte qui est quand même très qui se comprend bien,
ouais,
je pense.
Les sites de rencontres.
Les sites de rencontres, etc. Ouais. Et puis là, on est sur une... On est cette Mademoiselle B, c'est une femme qui a acquis sa liberté. Elle choisit. Voilà. Et c'est, on en parle aussi parce que, courant de l'automne, on a travaillé avec Philippe Prohomme. Je ne sais pas si...
Oui, qu'on connaît depuis 2002. Donc,
que vous connaissez bien. Mmh. Donc, on a travaillé avec Philippe Prohomme pendant un week-end. Mmh. Et donc, il nous a beaucoup questionnés, finalement, sur ce que signifiaient les textes, de façon à ce qu'on mette notre set en place en prenant en compte le message. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'expression scénique et sur la façon d'ordonnancer nos morceaux avec lui. Voilà, c'est là qu'on s'est posé beaucoup de questions sur nos textes. C'est pour ça que je dis que si Xavier était là, il dirait bon, en fait, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose, mais finalement, ça veut quand même dire quelque chose.
Bon, alors, le premier titre vaut son pesant de cacahuètes, c'est Ferdinand aimait les fleurs. Ouais. Et bon, là, bon. En écoutant la chanson, si je n'avais pas lu quelque part sur les réseaux sociaux, j'avais du mal à trouver que c'était un taureau, tu vois.
Ouais.
Et quand on entend en plus Ferdinand et mes fleurs, c'est aussi un dessin animé.
C'est ça.
Hein, de Walt Disney. Donc il n'a pas fait que des niaiseries.
Ouais.
En plus, je l'ai regardé le dessin animé. Hein.
Ouais.
Elle est très belle cette chanson. Ouais. Dès le départ.
Cette chanson fait Ferdinand aimait les fleurs. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas le morceau qui ouvre le concert, c'est le deuxième titre. Mais bon, c'est quoi Ferdinand? Ferdinand, c'est l'histoire d'un taureau.
Ben oui.
Voilà, un dessin animé. Et Ferdinand, dans le texte, on dit Ferdinand aimait les fleurs, mais son père voulait qu'il soit méchant. Alors Ferdinand prit peur, il ficha le camp. Voilà. Parce que Ferdinand, c'est un taureau qui préfère sentir l'odeur des fleurs plutôt que l'odeur du sang.
Voilà.
Et il en est victime. C'est-à-dire
c'est pas de sa faute, c'est une abeille. Hein.
Et oui, c'est pas de sa faute. Mais en fait, on peut lire ça aussi sur sur notre société et que les gens qui sont un peu différents et qui veulent, si on préfère les fleurs, on a le droit de préférer les fleurs, quoi. Après, chacun met ce qu'il veut derrière, mais et c'est ce qu'on a voulu raconter dans cette chanson.
Ce que Xavier a voulu raconter.
Xavier voulait raconter. On s'est approprié.
Exactement. Par rapport au titre de l'album Sourate Safran, qui est aussi une chanson, une explication de texte s'impose? Non, même si Sourate, c'est un chapitre du Coran. Safran, c'est une épice. C'est une chanson qui est faite pour voyager.
C'est ça. C'est parce que c'est joli. Si Xavier était là, il dirait que ça sonne bien les deux mots ensemble. Sourate, safran, c'est joli. Mm-hmm. Bon, après, évidemment, là aussi, on est toujours un peu sur cette l'expression en fait de la paix, quoi. Cette espèce de monde dans lequel on vit et qui est quand même assez compliqué et assez en guerre. Et Sourate Safran, c'est la paix, c'est ça, s'il vous plaît.
Le cinéma l'inspire, Xavier, quand il écrit ses textes?
On va l'appeler, mais je pense, oui.
Ouais, ouais.
La littérature, beaucoup aussi. Mmh. Énormément la littérature.
D'accord. Bon, il y a Santa Carne, ça veut tout dire. Enfin, ça veut tout dire, non? C'est votre côté...
Je sais pas quel côté.
Santa Carne, c'est la sainte viande, quoi. C'est la toute puissance de la viande. C'est la traduction qu'on en fait. C'est une chanson d'amour.
Exactement. Bravo. Philippe Prohomme était là, il dirait la même chose. Il dirait, mais c'est une chanson d'amour.
Il le dirait moins bien. avec ses 8 doigts.
Voilà.
En fait, rien à voir avec la
non,
la
bah
viande,
c'est, là, c'est pareil. Là, ouais. En fait, c'est l'inversion. C'est-à-dire que c'est le mec qui croit qu'il est le maître. Mais en fait c'est son épouse, sa bien-aimée, qui est la maître, qui est la maîtresse, en fait. Mais pas au sens de la maîtresse. C'est elle qui a décidé, qui a pris sa vie en main et s'est retrouvée comme un con à la chercher de partout. Mais elle est partie et c'est trop tard. Il ne pourra pas la faire revenir. Il fallait qu'il y pense avant. C'est ça l'histoire de Santa Carne.
Par contre, Oxford et autres, il y a une voix, moi, ça m'a fait penser à Tiefen.
C'est une belle référence. Hein.
C'est une de ses influences, hein, Xavier ? Pas spécialement ?
Il aime bien, mais pas spécialement.
D'accord. Mmh. Ouais, bon, tu vois. Bon, Oxford, ça fait évidemment penser au papier.
Mmh. Ouais.
Mais c'est un rapport ou pas ?
Ben, dans le texte, il y a une référence à ça.
Ouais. Bon, puis c'est le rapport avec le droit des animaux aussi.
Je crois pas.
Non ?
Non.
Non mais
c'est compliqué. Hein. Il faut l'écouter pour comprendre.
Non. Moi, j'y suis pas arrivé. Hein. Et écoute, pourtant, j'ai écouté.
Hein. C'est ça le requin-dé, en fait. Hein. Ah, on peut se permettre beaucoup de choses. Hein.
Ah bah oui. Ouais, mais nous, on aime bien comprendre, des fois. Mm-hmm. Enfin, finalement, il n'y a rien à comprendre, quoi.
Si, chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Ouais, avec Prohom, on était quatre, il nous a demandé « qu'est-ce que vous avez compris ?» On a tous donné une explication différente.
Ouais. Et lui aussi.
Bah, probablement. Lui, il posait surtout les questions. Donc, c'est bien la preuve que les paroles peuvent être prises de différents angles et on peut en sortir ce qu'on a envie.
Ah ouais. Bon, qui a eu l'idée de chanter une chanson sur le pétillant en italien, Frizzante?
Ah ben, le texte, c'est toujours Xavier.
C'est toujours Xavier.
Hein. Oui.
Ah ouais.
Ah oui. Mais ouais. Là, c'est plutôt un ode, c'est vraiment un ode à la liberté. Hein.
Ouais.
Cet
album?
Ah oui.
Ah
ouais. Globalement, c'est...
Il ne faut pas le prendre mot à mot. Quoi.
Non, il faut prendre le concept global et se dire... En fait, nous, ce qu'on a voulu dans cet album, c'est transmettre, en fait... C'était à parler de choses qui sont des choses assez compliquées de notre monde d'aujourd'hui, mais de manière positive, avec de la dynamique et avec de l'imaginaire. De la liberté. C'est ça qu'on a vécu quand on a commencé à écrire ces titres.
Puis même la voix en elle-même est plutôt joyeuse. Mmh. Elle n'est pas sombre du tout. Ouais. Bon, musicalement, j'imagine que la basse batterie... est-ce que la basse batterie a eu plus d'importance ou de place que d'habitude, ou du fait que Laurent soit arrivé
On lui a laissé prendre sa place. Je pense que...
Ouais. Oui, c'est...
On ne l'a pas mis sous contrainte. Mm-hmm. Au contraire, on lui a dit « Fais ce que tu ressens, ce que tu sais faire, sais faire de mieux. » Je pense que c'était que ça le message. Et après, il peut en parler, mais...
Parce que dans Mademoiselle B, là-bas, elle est plutôt... Elle est plutôt curienne, alors... Elle est plutôt très occure, même si ça ne doit pas être une de tes influences.
Non, ce n'est pas une de tes influences, mais... J'ai essayé de me caler par rapport à ce qui était proposé au niveau des paroles, de la guitare... Et voilà, et même si c'est pas mes influences, c'était la chose qui m'a semblé devoir faire à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, j'ai pas forcément joué quelque chose qui va me, enfin que j'aurais joué, mais je le joue parce que je sens que c'est ça qu'il faut mettre à cet endroit-là et pas autre chose.
Voilà.
Si je mets autre chose, un truc qui me plaît, ça va être un peu décalé.
Est-ce que t'as réussi à mettre de la basse qui te plaît?
Ah oui, non, mais j'ai pris du plaisir à jouer dessus. Il y a un morceau sous le soleil de Platon, j'aurais fait une basse beaucoup plus bancale. Mais le groupe, c'est pas un truc où ils auraient accroché. Alors que moi, au fond de moi-même, il fallait que je fasse un truc beaucoup plus bancal. Mais on est un ensemble, donc il faut respecter l'envie de tout le monde pour faire la chose la plus homogène possible. Après, des fois, il faut se mettre un peu en retrait en se disant « Bon, je ne fais pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, ça sert le groupe. » Donc, moi, je suis là pour servir le groupe.
Et le batteur dans tout ça ?
Mais il a un rôle très important, Bertrand.
Il a quand même tapé fort, là.
Oui, il a un rôle très important. Effectivement, c'est... dans la manière dont les choses se passent en règle générale, c'est que je viens arriver avec des riffs, avec des idées de morceaux, des structures. Et puis derrière, bon, on se connaît depuis longtemps, hein, donc forcément ça doit aider. Et Bertrand, tout de suite, il sent un petit peu comment ça doit aller. Et donc effectivement, il a un rôle important. Et il a eu un rôle important aussi dans le son aussi, hein, dans la production en studio. Il a eu un rôle important d'oreille, d'écoute. Il écoute énormément de musique. Il a beaucoup d'expérience aussi. Donc il a vraiment pu jouer un rôle important dans cette création-là. Et effectivement, des titres comme Santa Carne, il a une partie de batterie qui est très... C'est compliqué. Voilà. Lui, il sait le faire, mais c'est compliqué à faire. Voilà. Mais notre volonté, nous, c'est pas de faire des choses compliquées. C'est de faire des choses que les gens ont envie d'écouter et de réécouter. Et même quand on fait des morceaux, parfois il y a des arrangements un peu compliqués, on essaie toujours de rendre la chose simple. Voilà, donc bon, toujours un peu cette contradiction. Voilà. On a des textes compliqués, mais on veut qu'ils soient simples. Une musique qui est un peu complexe parfois, mais on veut qu'elle soit simple. C'est comme ça qu'on vit, nous.
Voilà. Bah, j'imagine que sur scène, vous jouez fort. Enfin, vous jouez fort...
On s'écoute déjà. Ouais. Parce que ce qu'on reproche beaucoup dans beaucoup de concerts...
C'est de ne pas comprendre les paroles.
Ah, l'objectif, c'est qu'on les comprenne.
Oui, parce que plus, c'est en français. Donc,
là, exactement. Et ça, c'est un challenge en plus. C'est un vrai challenge parce que les endroits où on joue souvent, le son est fait plutôt correctement lors des balances. Et puis après, lors du concert, tout le monde se monte. Et en fait, c'est plus inaudible, c'est plus audible pour le public. C'est souvent le cas, on le vit souvent. Et donc, nous, on fait attention vraiment à ça, à ne pas changer les réglages. Alors, ça, c'est technique, hein, voilà. Mais c'est la volonté qu'on a de faire ressortir vraiment le texte. Et là, on a des captations vidéo de nos derniers concerts. Honnêtement, on comprend les mots comme si on était en studio. Donc, on est content, on a réussi. On a appris à faire ça qu'on ne savait pas bien faire avant non plus.
Ah, c'était pas le cas avant, alors. Enfin, c'était moins le cas avant.
Avant, on bourrinait un peu plus, ouais. Maintenant, on essaie de respecter le morceau.
On a écouté Prom. Hein.
Ouais, voilà, aussi, ouais.
Ah ouais.
Ouais. Et puis, on a un peu de cheveux blancs maintenant.
Oui. L'expérience.
Un peu d'expérience. Hein,
89, 4, 2 mois, ça. Ouais. Oui, mine de rien, 2013, ça fait 12 et 4, 16.
Ouais,
16 ans
de.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Bon, un chanteur qui prend la peine d'écrire des choses qui sont intéressantes, ou même si ça part un peu, mais il y a une poésie, c'est dommage de l'écraser par de la musique. Bah, il faut respecter ce travail.
Ah ouais. Mais bon, quand on joue du rock, c'est pas facile quand même.
Oui, mais bon, ça dispense pas.
C'est ça. Et on considère vraiment, Xavier l'explique très bien aujourd'hui, c'est que la voix, c'est vraiment le quatrième instrument. Donc, il le travaille comme ça.
Et puis, il y a les chœurs aussi qui sont omniprésents quand même.
Bien sûr.
Vous êtes aussi un groupe de chœurs.
Ah oui. Ah, ouais. On a beaucoup de chœurs.
Toujours ? Vous avez toujours été le cas ?
Non, non, on a toujours été très peu présents sur les chœurs, mais ça fait maintenant depuis... Depuis au moins le... Depuis le deuxième album, donc, qui est sorti en 2017, on a vraiment travaillé ce sujet-là parce que sur scène, c'est important, quoi. Ça nous donne vraiment une dynamique aussi, pas que derrière l'instrument, et on participe vraiment avec le chanteur, du coup.
Sur scène, vous avez plusieurs formules ou c'est uniquement d'électrique ? Vous avez une formule acoustique ?
Pas encore. On a déjà bien réfléchi, mais pour l'instant, on est électrique.
Ah oui, c'est en...
C'est pas en...
C'est en réflexion.
C'est en réflexion, ouais.
Ouais. Et vous êtes forcément quatre ?
Oh ben on peut faire, oui, bien sûr. Ah, oui.
Vous pourriez faire que deux avec le chanteur ?
Non.
Non, pas toi ?
Non.
Non, c'est fini. Enfin...
Non, non, même un acoustique, pour moi, on peut faire de l'acoustique. Enfin, aujourd'hui, il y a plein d'acoustiques avec la basse et puis avec la batterie.
Un petit caronne, je ne sais pas.
Exactement.
Quoi,
exactement.
Ouais. Bien. Bon, les concerts, vos derniers concerts se sont bien passés. C'était dans plusieurs concerts.
On a joué en décembre, au Rocanite.
Au Tremplin de la Vache.
Oui, et on a joué la Vache Rouge aussi, qui est une salle que peu de gens finalement connaissent, mais qui devient une salle importante aujourd'hui, qui fait passer des gens connus, comme nous, hein, bien sûr, mais bien d'autres bien sûr. Encore plus connus, qui est un très beau lieu pour faire de la musique. Et puis sinon, on est en plein booking pour des festivals, et la complexité des festivals aujourd'hui, c'est qu'il faut... voilà, il y a, aujourd'hui, il y a 300 candidats par festival. Donc, il faut sortir du lot. Donc, on travaille aussi avec les réseaux sociaux pour augmenter notre base de fans. On est obligé de faire de la communication et du commerce maintenant. Voilà, on pensait qu'on faisait ça que dans nos boulots, mais non, il faut le faire aussi pour le groupe. voilà, on a une date qui est en train de se profiler pour le 15 juin. Donc, on communiquera sur les réseaux sociaux dès que ça sera officialisé.
Bien. Allez, vous avez devant vous une petite feuille jaune parce qu'il va être l'heure, parce que le temps tourne, d'annoncer les concerts de la semaine. Chacun de notre tour, on va annoncer un concert. Si vous voulez faire un petit commentaire, hein, bien ou mal, vous n'hésitez pas. Allez, moi je commence le vendredi 28 mars au théâtre de l'entrée à l'hébergement de Varais. C'est notre ami Frédéric Bobin. Voilà, à 19h. Voilà, je l'ai mis en double, c'est pas grave, parce que c'est mes frères Bobin, c'est pour ça. Eh bien, tiens, Laurent. Annonce le prochain.
Eh ben, la Rayonne, la même date, hein, La Rayonne à Villeurbanne, Generation et Bijo.
Ouais, c'est du reggae.
Ah, d'accord. Ouais. Au Craspec Musique Lyon, on devrait y passer bientôt.
Ouais.
On a déjà eu des contacts. Alors, Mike Noegraf, Caroline and the Free Folks.
On est quasi Villefranche-sur-Saône, Nirmania, c'est un tribute au Nirvana. Tiens, encore des tributes. Hein. Ouais.
À la tannerie à Bourg-en-Bresse, Nawa, release party et clos.
Voilà. Au
au transmandeur Villeurbanne, Orange Blossom.
Mm-hmm. Le samedi 29 mars, toujours à la salle des fêtes, Brignier-Cordon, toujours notre ami Frédéric Bobin.
Le brise-glace à Annecy, Friedberg et Clavicule.
Au café de la tannerie à Bourg-en-Bresse. Je pourrais le dire qu'on irait bien jouer là-bas.
Bien sûr.
Donc que le programmateur prenne contact.
Oui.
Donc il y aura.
Ça serait plutôt à vous de le contacter.
Oui, bien sûr. Hein. Open Mic Reggae Dance Hall avec Selecta Nata, Selecta Zayan. Excusez-moi si je me trompe, mais bon.
C'est bon. À la péniche à Chalon-sur-Saône, The Screaming Monkeys, les Cowboys from Outer Space et Lord Diabolique.
Centre Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin, The Two.
Théâtre de Givors, Johanna.
Le dimanche 30 mars, à salle Pierre Lamy, à Annecy, Nash.
Le 1er avril, ce n'est pas une blague,
non.
À l'espace Albert Camus, à Bron, Émilie Loiseau.
C'est bien.
Et le mercredi 2 avril, la Rayonne Villeurbanne, Carbone.
Au Théâtre Comédie Odéon à Lyon, la Grande Sophie, qu'on aime bien. Voilà.
C'est vrai. Le Radiant à Caluire, Solane.
Au Craspec Musique Lyon, Ursule et Madame.
Et on tourne la page. Le jeudi 3 avril, au Théâtre Villefranche-sur-Saône, les Birds on the Wire avec Rosemary Stanley des Moriarty.
Le brise-glace à Annecy, Delgrès et Satellite.
Voilà. Vous connaissez Delgrès, non ?
Non.
Au Théâtre Comédie Odéon Lyon, la Grande Sophie.
Et à la Taverne à Saint-Rémy, dans le 7-1 en Saône-et-Loire, les jeudis de la Taverne avec notre ami Yvan Marc.
Et enfin, la tannerie à Bourg-en-Bresse, Satellite Jockey pardon, et Manta.
Voilà. Et avant de se quitter, on va écouter un dernier extrait du c'est quoi votre quatrième album ? Troisième ? Quatre ? Quatrième album de JT Pousse, Innazu, Sourat, Safran. Le dernier morceau de ce soir, Un navire dans le feu, tout un programme.
Un secret pour personne, je ferai de ta douleur mon fond de commerce, et puis je lirai dans tes rêves et te dirai la messe. Ce n'est un secret pour personne, je ferai de ton honneur le revers de la médaille, je lirai dans tes rêves et te dirai comment faire. Pour personne, j'en ferai mon affaire de ton voyage dans les brumes. Je lirai dans tes rêves et tu dirais qu'on crève. Pour des planètes en ma faveur, pour des planètes en ma faveur. Un jeu de piste, la foule qui passe, un coup de poker. On a tout le temps, tout l'esprit.
s'éteindre. Autant ça brille, autant ça peut s'éteindre. Un navire dans le feu.
Les Digitipus et Nazou avec Un navire dans le feu, extrait de leur dernier album en date, Sous Ratsafran. Eh bien, messieurs, il va être l'heure de se quitter. Hop, voilà. Ah ben... Florent hein, et Laurent, voilà, c'est plus simple. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Terminus des Prétentieux.
Merci de nous avoir invités.
Alors rappelons que le nouvel album de Digitipus Inazu, je viens de le dire, Sourate Safran est sorti le 13 novembre 2024. Où peut-on se procurer sans oublier les autres galettes du groupe?
Donc l'album est disponible donc, sur toutes les plateformes numériques. Mmh. Et puis j'ai dans la main là, donc, le vinyle, puisqu'on a fait le choix de sortir cet album également en vinyle. Donc pour ceux qui ont déjà une platine ou qui n'en ont pas, c'est pas grave. L'album est disponible, vous pouvez le commander directement en vous adressant au groupe via les réseaux sociaux. Et bientôt, il sera disponible aussi à la vente sur notre site internet qui va ressortir du néant mi-avril.
Bien, c'est bien. Voilà. Un vrai site. Bien. Où serez-vous prochainement en concert?
Normalement, le 15 juin, dans la région lyonnaise, mais tant que c'est pas signé, je...
C'est vrai. Voilà. On ne dit rien. Alors, si vous êtes jeudi, ne manquez pas à 18h30 la rediffusion de la 32e émission de Roman de Gare. J'accueillais Georges Arpin, il nous présentait son premier livre « Oyonnax ingénieuse et rebelle, 100 ans de mémoire ouvrière » paru le 13 septembre 2024. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir l'artiste burgienne Lou Neil. Lou Neil, pourquoi je dis Neil, il n'y a pas de « i » elle nous présentera son premier album « Histoire de Corbeau » sorti le 15 mars 2025. Sur ce, comme le dit si bien Tonio, rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h15 sur les 90.0 de Radio B. Ben Florent et Laurent, bonne chance pour... J'ai dit Florent, hein?
Oui, c'est parfait.
C'est bon. Florent et Laurent, bonne chance pour la suite des aventures de Digitipus Inazu.
Merci. Hein?
Vous saluerez pour nous Xavier et Bertrand?
Pas de souci.
Voilà. Bon concert et puis bon, je dirais à bientôt sur Radio B parce que si avec le prochain album qui... Enfin, le prochain ancien nouvel album.
Ah, c'est ça, c'est la surprise du chef.
Donc pour la rentrée, quoi.
Pour la rentrée,
pour la rentrée. Messieurs, bonne soirée.
Merci,
bonne
Michel. Merci, bonne soirée. To sleep and dream.